Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 25 avril 2023. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Un cessez-le-feu annoncé par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est entré en vigueur mardi à 0h au Soudan après 10 jours de combats meurtriers. Au Burkina Faso, le village de Karma, où des hommes en tenue de l'armée ont perpétré un massacre, est complètement saccagé selon des habitants. Au Mali, l'armée affirme avoir mené une opération militaire dans une région où progresse le groupe État islamique. Au Sénégal, le président Macky Sall rompt avec l'ex-premier ministre Idrissa Seck, un candidat à la présidentielle de 2024. Ici aux États-Unis, la candidature du président Joe Biden, attendue ce mardi pour un second mandat à la Maison-Blanche, malgré les inquiétudes exprimées sur son âge. Et à New York, procès civil pour diffamation contre son prédécesseur et rival républicain Donald Trump sur fond d'accusations de viol que ce dernier dément. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Soudan, un cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les belligérants sous l'égide des États-Unis est officiellement entré en vigueur mardi après 10 jours de combats qui ont fait plusieurs centaines de morts et provoqué un exode massif. L'armée et les paramilitaires ont confirmé le cessez-le-feu, mais on ignore encore si les combats ont cessé dans la capitale Khartoum. C'est hier lundi que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé que l'armée et les paramilitaires en conflit au Soudan avaient accepté un cessez-le-feu de 3 jours. Les détails avec John Linden.
Après d'intenses négociations ces dernières 48 heures, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter du 24 avril à minuit, devant durer 72 heures, a affirmé M. Blinken dans un communiqué. Les FSR confirment et annoncent par communiqué une trêve dédiée à l'ouverture des couloirs humanitaires et la facilitation du mouvement des civils. Dans une déclaration sur Facebook, les forces armées soudanaises ont de leur côté indiqué qu'elles respecteraient le cessez-le-feu à condition que leurs rivaux fassent de même. Khaled Omar Youssef, le porte-parole des FLC, Forces de la Libération et du Changement, bloc civil historique du Soudan, a déclaré à l'AFP se féliciter d'une médiation américaine pour la mise en place de cette trêve humanitaire. Elle donnera lieu à un dialogue sur les modalités d'un cessez-le-feu définitif, précise-t-il, alors que le secrétaire d'État américain indique également travailler avec les alliés et les partenaires des États-Unis en vue de la mise en place d'une commission chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan. L'ONU avait réclamé plus tôt lundi l'arrêt des combats pour éloigner le Soudan du précipice. Et si depuis plusieurs jours, les deux belligérants avaient déjà annoncé accepter des pauses dans les combats, à chaque fois, ils se sont accusés d'avoir brisé la trêve. Cette fois, durant cette période, les États-Unis s'attendent à ce que l'armée et les FSR respectent pleinement et immédiatement ce cessez-le-feu, a prévenu M. Blinken.
Les explosions, raids aériens et tirs ont poussé à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos. Ceux qui ne peuvent pas s'enfuir tentent de survivre privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'Internet et de téléphone. De nombreux pays ont continué hier à évacuer leurs ressortissants du Soudan. Les combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés. Selon l'OMS, les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les belligérants. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est inquiété hier de la présence du groupe paramilitaire russe Wagner au Soudan. Le point avec Mohamed Houmfa.
Nous avons de très sérieuses préoccupations sur l'engagement du groupe de Prigogine, le groupe Wagner, au Soudan, a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kényan, Alfred Mutua. Nous sommes préoccupés par le rôle joué par certains de nos amis au Moyen-Orient, ainsi que la Russie et d'autres qui soutiennent l'un ou l'autre camp, a affirmé le ministre kényan des Affaires étrangères. Des médias ont fait état d'armes fournies par le groupe Wagner aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, qui est opposé au général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée. Le ministre kényan a émis l'espoir que son pays pourrait jouer les médiateurs. Son président William Ruto est prêt à se rendre au Soudan dès que les conditions le permettront. Face à la dégradation de la situation, les États-Unis ont évacué leur personnel diplomatique et suspendu les opérations de leur ambassade à Khartoum. Mais Washington a écarté pour l'instant toute opération pour sortir les Américains du Soudan, préférant les aider au cas par cas.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le nord du Burkina Faso, le village de Karma, où au moins une soixantaine de civils ont été tués jeudi par des hommes arborant des tenues des forces armées nationales, a été complètement saccagé et pillé, ont indiqué hier des habitants. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
C'est un vrai massacre, d'après un ressortissant de Karma, ajoutant que ceux qui ont fait ça étaient habillés en treillis de l'armée. Il affirme que les gens ont peur d'en parler, car ils accusent l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie des supplétifs de l'armée. Un autre ressortissant affirme que le bilan est plus lourd. Selon lui, il y a eu plus de 100 morts. Il souligne que les auteurs ont accusé les habitants du village d'avoir été complices de l'attaque terroriste d'Aurema, où des djihadistes présumés ont tué 6 soldats et 34 VDP il y a une semaine. Le procureur du tribunal de grande instance de Waiguia dans le nord, Lamine Kabore, a indiqué qu'une soixantaine de personnes ont été tuées par des personnes arborant des tenues des forces armées nationales dans le village de Karma. Des rescapés parlent de plus d'une centaine de personnes à bord de motocyclettes et de pick-up qui ont fait une descente jeudi dernier à Karma, précisant que des dizaines d'hommes et de jeunes ont été exécutés par ces hommes vêtus de tenues militaires.
Au Mali, l'armée a affirmé lundi avoir interpellé 12 terroristes lors d'une opération dans le nord-est du pays où les djihadistes du groupe État islamique ont étendu leur contrôle, mais l'ex-rébellion Touareg a assuré qu'il s'agissait de ces hommes. 12 terroristes ont été interpellés et du matériel saisi dimanche dans la région de Menaka, a indiqué dans un communiqué l'armée, en assurant que la situation sécuritaire dans l'ensemble des secteurs reconnus, y compris Tebe Selamane, In Agar, Chimam et Tin Fadimata, restez calme. Il ne s'agit pas du tout de terroristes ni de djihadistes, c'est absolument faux, a réagi peu après auprès de l'AFP Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole des ex-rebelles Touareg. Ce sont des militaires de l'ex-rébellion qui sont intégrés dans l'armée malienne reconstituée. Ils étaient en permission avec des documents signés dans ce sens, a-t-il ajouté. Au Sénégal, le président Macky Sall a officialisé lundi sa rupture avec un de ses principaux alliés à 10 mois de l'élection présidentielle. Il s'agit de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, qui a récemment annoncé sa candidature à ce scrutin, Nani Talani.
Le président Macky Sall a mis fin aux fonctions d'Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, une institution consultative. M. Seck a été remplacé par un ex-ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui était directeur de cabinet du chef de l'État. Le président sénégalais a aussi mis un terme aux fonctions de M. Yonkoba Diatara, ministre des Sports, et Ali Salé Diop, ministre de l'élevage, selon un communiqué officiel. Idrissa Seck, 63 ans, chef de gouvernement entre 2022 et 2024 sous l'ex-président Abdoulaye Wade, était arrivé deuxième derrière M. Sall à la présidentielle de 2019. Il avait quitté l'opposition en novembre 2020 pour rejoindre la coalition présidentielle. Le président Macky Sall reste muet sur son éventuelle candidature à la présidentielle de février 2024.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden va probablement aujourd'hui mettre fin au suspense et annoncer qu'il brigue un second mandat à la tête des États-Unis, balayant les inquiétudes exprimées sur son âge. Je vous ai dit que j'avais l'intention de me présenter, je vous tiendrai informé très bientôt, a lancé hier le dirigeant de 80 ans, alimentant les spéculations. La date de mardi serait loin d'être anodine, elle marquera le 4e anniversaire jour pour jour de la dernière entrée en campagne de Joe Biden, lorsque le démocrate s'est lancé dans une bataille pour l'âme de l'Amérique et avait privé son rival républicain Donald Trump d'un second mandat. Concernant M. Trump, un procès au civil pour diffamation contre l'ex-président s'ouvre ce mardi à New York, où une ancienne journaliste américaine, E. Jean Carroll, l'accuse de viol dans les années 1990. C'est un cas juridique délicat pour diffamation présumée sur fond d'alerte allégation de viol qui oppose depuis 2019 Madame Carroll à Monsieur Trump, qui dément. La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Afrique subsaharienne fait face à une grande pénurie de fonds liée au tarissement de l'aide au développement et à l'accès de plus en plus restreint au financement privé, avertit le FMI. Faute de mesures appropriées, ce manque de financement risque de contraindre les pays à réduire les ressources budgétaires consacrées à des domaines essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Le mécanisme africain de financement du développement des engrais s'est engagé à mobiliser des fonds pour mettre en œuvre le plan stratégique 2022-2028 afin d'accroître la disponibilité et l'utilisation appropriée des engrais en Afrique. Ce plan prévoit une assistance financière et technique pour améliorer l'accès et l'utilisation appropriée des engrais aux petits exploitants agricoles africains, principalement au Mozambique, au Zimbabwe, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Terminons par la Banque africaine de développement à Sao Tomé et Principe, qui a organisé sa première journée porte ouverte à l'intention des organisations de la société civile, sans lesquelles le gouvernement ne pourrait parvenir à un développement complet et inclusif. Les échanges ont principalement porté sur l'emploi des jeunes, la transition énergétique, ainsi qu'au soutien à l'agriculture et à l'économie maritime.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
NBA, pour commencer, doigt fracturé pour Fox des Kings, incertain pour le match numéro 5 contre les Warriors.
Oui, De'Aaron Fox, maillon essentiel de Sacramento, s'est fracturé l'extrémité de l'index gauche lors de la défaite à Golden State dimanche. Du coup, sa participation au match numéro 5 des playoffs demain mercredi est incertaine, rapporte ESPN citant des sources internes au club. Fox, s'il peut, jouera avec une protection sur ce doigt de la main qui n'est pas celle avec laquelle il shoot, car il est droitier. Son absence serait préjudiciable aux Kings dans cette série face aux Warriors, champion en titre, à qui lui rendent la vie dure. Car Fox, âgé de 25 ans, a encore délivré une performance de très haut niveau, 38 points, 9 rebonds, faisant honneur à son titre de joueur le plus décisif de la saison. Pour ses premiers playoffs, il tourne à 31,5 points, 7 passes décisives et 6 rebonds de moyenne en 4 rencontres jusqu'ici. Les deux équipes sont à égalité, 2 victoires partout et dimanche, il s'en est fallu d'un rien pour que Sacramento ne fasse le break à Golden State, finalement vainqueur sur le fil 126-125.
Au Brésil, une campagne veut faire entrer Pelé dans le dictionnaire.
Au Brésil, où le mot Pelé est synonyme d'excellence, son ancien club et une chaîne de télévision ont lancé une campagne pour réclamer que le surnom du roi du football figure dans les dictionnaires des noms communs de la langue portugaise. La campagne Pelé dans le dictionnaire a été lancée il y a 10 jours par la Fondation Pelé en partenariat avec Santos, le club où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974, et la chaîne Sport TV du groupe Globo, plus grand conglomérat médiatique du pays. Le terme est déjà utilisé fréquemment dans des expressions populaires comme « c'est le Pelé de la nation » ou « un dribble à la Pelé ». Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, décédé le 29 décembre dernier à 82 ans, est un véritable monument au Brésil. Quatre mois après sa mort, l'éternel numéro 10 de Santos et de la CELESAO fait encore l'objet de nombreux hommages, comme une minute de silence avant tous les matchs du championnat brésilien et des compétitions internationales sud-américaines comme la Copa Libertadores ou la Copa Sudamericana.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Soudan donc, un cessez-le-feu annoncé par le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est entré officiellement en vigueur mardi à 0h après 10 jours de combats qui ont coûté la vie à plusieurs centaines de personnes selon des organisations humanitaires et internationales. Plusieurs pays évacuent leurs ressortissants, laissant redouter le pire. Pour faire le point sur la situation sur place, Eric Manirakidza a joint hier lundi le journaliste Salah Mohamed El Hassan Osman.
À en croire les apparitions, il me semble que chez mon offensive aujourd'hui, il y a moins de frappes aériennes, mais il y avait plus de pertes humaines et matérielles parce que les armes utilisées dans ces frappes sont des armes qu'on peut dire très efficaces. Je ne sais pas comment voir. On parle d'une extension de la truce de 3 jours pour 10 jours, mais c'est-à-dire non respecté. Il y a 4 heures, il y avait une frappe aérienne dans mon quartier qui était très loin de cette case d'escalement qui a détruit 3 maisons. Voisine et laissé une dizaine de blessés à l'hôpital qu'on appelle l'hôpital turc à 200 mètres de chez moi.
Et vous trouvez où actuellement? C'est dans quel quartier?
Je suis dans un quartier qui s'appelle Kalakla, au sud de Khartoum, situé à 10 km du centre-ville, mais à 2 km seulement du camp de forces d'intervention rapide ou de soutien rapide dans la zone de Taïb al-Hasarab, qui est le camp le plus important de ces forces générales Hameti, où il y avait son quartier général.
Est-ce que vous pouvez sortir de chez vous, par exemple, pour aller vous approvisionner?
Oui. Dans mon quartier, on peut sortir, mais il y a à pied. Il n'y avait pas de transport, pas de voiture, pas de rafcha. Il n'y a plus de moyens de transport. Alors, on peut sortir à pied, aller jusqu'au marché voisin pour acheter. Et le marché, ça fonctionne, mais il y a une hausse de prix, une hausse infernale de prix de tout produit alimentaire et autres. Il y a des produits qui commencent à s'épuiser ou sur les étagères des magasins. Par exemple, des biscuits, tout la nourriture. Et on manque de plus en plus.
Dans quel quartier où on ne peut pas sortir aujourd'hui?
D'abord, tout centre-ville, downtown, comme disaient mes amis anglais, le centre-ville et les quartiers voisins de ce centre-ville, Sahafa, Diabra, Al-Kawit, Khartoum Ouest, Khartoum Est, Khartoum Sud, toute la zone de centre de la centre-ville. Et puis aussi la zone de Chambat, à Khartoum Nord, ville jumelle de Khartoum, où il y avait des frappes aériennes très sévères. Tous les jours, tous les 9 jours, mais aujourd'hui aussi. À Omdurman aussi, c'est difficile de sortir de chez lui dans le centre de la ville d'Omdurman. Seulement dans les quartiers très chers comme le mien, on peut sortir. Mais le centre-ville, et en fait, le centre-ville est ville morte. La plupart des gens ont quitté leur maison.
C'était le journaliste Salah Mohamed El Hassan Osman qui nous décrivait hier, je dis bien hier, lundi, la situation sur place avant l'annonce du cessez-le-feu au Soudan. Plusieurs pays se sont mis ainsi à évacuer leurs ressortissants du Soudan en plein chaos avant l'entrée en vigueur officielle d'un cessez-le-feu ce mardi, après 10 jours de combats meurtriers, Blanche Sanou.
La France, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays évacuent leurs ressortissants et leur personnel diplomatique du Soudan. Josep Borrell est le chef de la diplomatie européenne.
Le week-end a été long et intense pour tenter d'évacuer nos ressortissants du Soudan. C'est une opération complexe, mais elle a été couronnée de succès. Tout d'abord, le personnel de l'Union européenne, 21 personnes, sont déjà en Europe et beaucoup d'autres citoyens de l'Union européenne ont déjà quitté le Soudan. Je ne peux vous donner de chiffres exacts, mais il est certain qu'il s'agit de plus de 1000 personnes.
Des tirs et des explosions ont encore secoué dimanche la capitale et ses banlieues survolées par des avions de combat, selon des habitants de Khartoum, comme Mohamed Ahmed Souliman.
La situation est très difficile. Les conditions de vie, les hôpitaux, c'est difficile à tout point de vue. Il n'y a pas de transport, pas d'essence, pas de pain, pas de médicaments, il n'y a rien. Nous remercions Dieu que nous allions bien.
Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, dans l'Ouest, ont fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 420 morts et 3 700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres États du Soudan ou vers le Tchad et l'Égypte. Saloum, d'origine libanaise, s'est retrouvé hors du pays sans rien.
La guerre nous est tombée dessus sans avertissement. C'était très triste pour tout le monde, pas seulement pour les étrangers, surtout pour le peuple soudanais. La situation à Khartoum est très triste. Il n'y a personne là-bas. Nous avons perdu tous nos investissements. C'est détruit. Je suis parti avec ce t-shirt et ce pyjama. C'est tout ce qui me reste après 17 ans.
À Khartoum, les habitants craignent un regain de violence après le départ des étrangers.
Au Togo, alors que les voix s'élèvent depuis quelque temps pour dénoncer la cherté des connexions Internet mobiles, les opérateurs de téléphonie proposent de nouvelles offres pour apaiser la grogne. Sur certaines tranches, les volumes des data passent du simple au double sans changement de prix. Le point, depuis Lomé, avec notre correspondant Kossi Wousso.
C'est au jeu de à qui offrira le plus de mégas aux consommateurs que se livrent les deux opérateurs de téléphonie mobile du Togo. Ces derniers jours, les nouvelles offres ont plus que doublé sur certaines tranches alors que les prix n'ont pas changé. Eric Tchawalassou est le directeur marketing d'une des sociétés de la place.
Pour les mêmes tarifs, vous voyez le volume de votre souscription augmenter. Par exemple, sur l'offre de 1000 francs qui était à 500 mégas, vous passez à 1 giga et valable 7 jours. Et vous avez l'offre également de 3000 francs qui était de 2,5 giga valable 7 jours qui passe à 3 giga valable 30 jours aujourd'hui.
Chez le concurrent, 1000 francs CFA génère 1,5 giga valable 7 jours. Ce n'est pas pour déplaire aux consommateurs.
Nous accueillons favorablement la nouvelle, donc c'est une joie pour nous. Nous avons jusqu'à 100% des forfaits et par rapport à la consommation, par rapport au prix aussi de souscription. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle.
La réaction de Freddy Dounia, responsable de la communication de l'une des associations de défense des consommateurs, est plus mesurée.
Nous avons pris acte de cette offre à l'égard des consommateurs d'augmenter les capacités des data tout en maintenant toujours les anciens prix. Maintenant, nous sommes dans le wait and see. Nous attendons le retour des consommateurs qui auront à faire usage de cette nouvelle gamme de produits.
Yvette Emenefa Eklou, qui mène une campagne sur les réseaux sociaux pour une baisse drastique des coûts de connexion Internet Togo, en veut plus.
L'achat des data ici au Togo nous appauvrit et nous asphyxie. Nous voulons l'augmentation considérable des volumes data ainsi que le prolongement des dates de validité. Nous voulons 1 giga pour 500 francs avec une validité de 30 jours. C'est le minimum qu'on puisse demander, ce qui est vraiment très raisonnable compte tenu surtout de notre pouvoir d'achat.
Des voix s'élèvent aussi pour l'arrivée de nouveaux opérateurs de téléphonie pour que la concurrence joue pleinement son rôle au profit des consommateurs. C'est aussi le choix du gouvernement que revendique régulièrement la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Réaction des législateurs américains après que la Cour suprême des États-Unis a maintenu vendredi l'accès des femmes au mifepristone, une pilule pharmaceutique utilisée depuis longtemps pour les avortements et qui fait l'objet de plusieurs plaintes en justice. Cette décision de la Haute Cour a suspendu des restrictions sur cette pilule abortive décidée par des tribunaux inférieurs. Arash Arabassadi fait le point, récit de Jean-Roger Bion.
Le mifepristone, approuvé il y a près d'un quart de siècle par la Food and Drug Administration, la FDA, restera sur le marché pour l'instant. La Cour suprême a rejeté la décision d'un tribunal inférieur du Texas concernant la pilule qui, associée à un second médicament, le misoprostol, est utilisée dans plus de la moitié des avortements pratiqués dans le pays. Une action en justice visait ce médicament au motif que l'approbation du mifepristone par la FDA était entachée d'irrégularités. Cette affaire fait suite à l'arrêt de la Cour suprême, majoritairement conservatrice, qui, il y a près d'un an, a annulé l'arrêt Roe contre Wade, supprimant ainsi le droit constitutionnel des femmes à l'avortement et renvoyant la question aux États. Certains législateurs ont récemment appelé à des sanctions extrêmes pour ceux qui souhaitent avorter. Nancy Mace, parlementaire républicaine de Caroline du Sud, a déclaré à l'émission This Week d'ABC que certains membres de son parti sont du mauvais côté de cette question politiquement chargée.
Dans mon État, la Caroline du Sud, un petit, très petit groupe de législateurs a déposé un projet de loi visant à exécuter les femmes qui avortent et à donner plus de droits aux violeurs qu'aux femmes qui ont été violées. Ce n'est pas le bon message à envoyer en vue de la campagne de 2024. Nous allons perdre énormément si nous continuons sur la voie de l'extrémisme. La grande majorité des gens veulent des limites à la procréation. Ils veulent des exceptions pour le viol et l'inceste. Ils veulent que les femmes aient accès aux contrôle des naissances.
La Cour suprême ayant annulé le droit à l'avortement au plan national, les assemblées législatives des États se sont attelées à la tâche. En Floride, à la suite d'un vote au Parlement, en catimini, le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé un projet de loi interdisant les avortements après 6 semaines. Pendant ce temps, le gouverneur démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer, a abrogé une interdiction de l'avortement datant de 1931, consolidant ainsi le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Et la décision du tribunal de première instance du Texas dans cette affaire intervient dans un contexte d'un jugement négatif du système judiciaire américain, selon un récent sondage Gallup. Le sénateur démocrate Mark Warner, dimanche dans l'émission This Week sur ABC.
La décision du juge au Texas était, à mon avis, insensée. L'idée de prendre un médicament qui a été utilisé en toute sécurité pendant plus de 2 décennies et d'en amoindrir la disponibilité, je pense franchement qu'il s'agit d'une question où les choix en matière de soins de santé des femmes doivent être faits par les femmes. Et l'idée que ce juge interfère de manière aussi radicale dans une procédure qui a fait ses preuves, franchement, cela ne concerne pas seulement les choix des femmes en matière de soins de santé, mais cela sape l'intégrité de notre processus de contrôle et des régulations. Et je pense que la Cour a eu raison, mais qui sait quelle sera sa décision finale?
Le droit à l'avortement s'invite sans conteste dans les thèmes majeurs de débat pour la campagne présidentielle de 2024. Le président Joe Biden, qui a fait l'éloge de la décision de la Cour suprême vendredi, a déclaré qu'il continuerait à faire pression pour que le droit à l'avortement devienne une loi.
Merci Jean-Roger. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.